Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes.
Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout.
C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast « Femmes engagées ». Produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et Réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons l'Iranienne belgo-canadienne Annie Ziaé. Bonjour Annie Ziaé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors Annie Ziaé, vous étudiez la société civile iranienne dans son ensemble, à savoir le mouvement des femmes et des étudiants ainsi que les pratiques de l'État iranien et sa politique domestique. Vous êtes conférencière internationale. Vous donnez des cours et des conférences dans le monde, sur le monde iranien, et vous commentez l'actualité du pays auprès des médias de vos pays, donc québécois, français et belges. Vous êtes aujourd'hui attachée à la chaire royale d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Annie Ziaé, je vous laisse prendre la parole.
Très bien, merci beaucoup de me recevoir. Alors voilà, donc moi je suis, comme vous l'avez très bien dit, politologue, spécialiste de l'Iran. J'ai commencé en fait à travailler sur le monde iranien dès le début de mes études, donc bac, maîtrise et ensuite doctorat. Ça a été beaucoup dans un cadre de recherche académique. Ceci étant dit, l'objectif aussi de faire de la recherche, c'est aussi de le rendre accessible et dans la vulgarisation de la recherche. Donc pour moi, ça c'est très important que ce que j'ai pu faire, ou en tout cas ce que j'ai pu récolter sur le terrain et dans le cadre de mes recherches puisse évidemment être très accessible. D'ailleurs, j'ai la chance en tout cas aujourd'hui de parcourir notre monde, j'habite notre monde et le but aussi quelque part de ces voyages, c'est aussi toujours aller à la rencontre de l'autre et de faire connaître finalement un pays dont parfois on en parle parfois beaucoup, parfois moins, en fonction du contexte politique, en fonction aussi des agendas médiatiques. C'est finalement un pays parfois qui est méconnu ou mal connu. Et pour moi, c'était très important de pouvoir profiter en fait de ce mouvement pour essayer de faire connaître finalement ce pays avec tant de questions importantes que vous avez soulevées. À la fois un État aujourd'hui décrit comme un État théocratique, un État autoritaire, que moi je nomme en fait à la fois un État où à la fois vous avez des pratiques autoritaires mais aussi totalitaires. L'Iran n'a jamais connu d'expérience démocratique et on s'est beaucoup intéressé à l'Iran ces dernières années sur le dossier nucléaire. Et parfois, j'ai eu l'impression qu'on faisait un petit peu abstraction de ce qui fait souvent une société, c'est-à-dire les personnes, les acteurs, les actrices de cette société. Et c'est vrai que comment aujourd'hui parler d'un pays sans parler des femmes iraniennes dont on parle beaucoup depuis un an. Mais il faut rappeler que dès 1980, c'était les premières à contester contre le régime, contre le port du voile obligatoire.
Absolument.
Et c'est important de le dire parce que c'est une société qui est très éduquée, qui est de plus en plus féminine, qui est très jeune. Et ce qui est en train de se passer en Iran, ou en tout cas à l'heure où on est en train de se parler, je pense que l'Iran est en train de traverser un moment très important et significatif de son histoire contemporaine.
Vous voulez parler notamment de ce fameux mouvement Femmes, Vie et Liberté qui a été effectivement repris dans le monde entier et heureusement à la suite du décès de Mahsa Amini.
Oui, absolument. Depuis septembre 2022, beaucoup de gens connaissent maintenant ce nom. Mahsa Amini, qui est devenue finalement un symbole contre l'oppression des femmes. Ça a permis évidemment de revenir sur la question de la violence à l'égard des femmes. Ça a permis aussi de pointer le doigt sur les féminicides, parce que malheureusement, Mahsa Amini fait partie d'une longue liste de victimes. On peut se On peut se rappeler ici de Zahra Khwarizmi il y a 20 ans, qui a reçu un coup à la tête, hémorragie interne, elle est décédée. On peut se rappeler de Neda Aga Sultan en 2009, donc il y a 14 ans, qui a reçu une balle en pleine manifestation pendant le mouvement vert en Iran. Il y a eu récemment, malheureusement, le 29 octobre 2023, il y a eu le cas de la jeune Armita, 16 ans, qui a également un petit peu un cas similaire à Mahsa Amini, peut-être avec la différence où si on avait considéré avec Mahsa Amini qu'elle portait un voile inapproprié et qu'elle avait reçu un coup à la tête et que 3 jours après un coma, malheureusement, elle est décédée. Armita, elle a été dans le coma pendant plusieurs semaines, mais elle a refusé catégoriquement de porter le voile. Et c'est ce refus, malheureusement, qui a donné la mort.
Et Nika Shakarami aussi. Malheureusement, on égrène les noms de ces jeunes femmes, souvent très jeunes, qui ne lâchent rien et qui résistent à cette oppression et malheureusement qui sont victimes de cette brutalité inouïe.
Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que cette génération refuse ce que peut-être la génération précédente a été obligée d'accepter. Et c'est intéressant de voir aussi cette question générationnelle parce que c'est une génération 2.0. C'est une génération qui évolue sur les réseaux sociaux. C'est une génération qui s'intéresse beaucoup à l'Occident. Malgré toute cette rhétorique anti-occidentale, anti-américaine, on voit qu'il y a un échec quand même assez intéressant à constater, puisqu'aujourd'hui, les jeunes Iraniens regardent vers l'Occident. L'Occident est même parfois pris comme un exemple. Le fameux American Dreams, le rêve américain, est encore habité dans cette nouvelle génération. Et c'est vrai qu'au niveau de la musique pop, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de la littérature, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe à l'extérieur de l'Iran. Donc, ils ne peuvent plus aujourd'hui accepter cette vision islamiste de la société. Ils ne peuvent plus accepter, si vous voulez, de vivre dans un état anachronique.
Vous avez le sourire accroché aux lèvres et vos yeux pétillent. Vous êtes en lutte et vous semblez quand même très optimiste sur l'avenir de l'Iran grâce à cette jeunesse. Qu'est-ce qui vous donne cette pêche ? Malgré la situation.
Ça, c'est un trait de caractère, je pense. Mais c'est vrai que, je vous avoue, on vit dans un monde très difficile. C'est un monde fragile. Je travaille sur des sujets très difficiles. Et c'est vrai que parfois, j'ai du mal à sourire. Mais on se doit d'ici. On doit garder l'espoir. Il y a cette fameuse expression qui dit « l'espoir fait vivre ». On n'a plus le choix aujourd'hui. Dans un monde où on a l'impression que tout est en train de s'écrouler. Vous savez, c'est peut-être la poésie persane qui me donne parfois cette force. J'ai une maman très littéraire qui me lit de la poésie persane quasi à chaque matin. Elle vient me voir avec parfois des petits textes. Voilà, c'est parfois des choses très simples de la vie qui me viennent me donner une force intérieure. Mais on dit souvent, dans la poésie persane, je le retrouve, mais je le retrouve aussi dans une forme de philosophie occidentale et propre au côté zoroastrisme. C'est que souvent on dit, il y a de la lumière dans l'obscurité. Voilà, cette jeunesse, ces femmes, pour moi, sont des lueurs d'espoir. C'est peut-être là, justement, la lumière. Et c'est vrai qu'on est partagé. On développe finalement un comportement parfois un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on est partagé à la fois avec beaucoup d'espérance. On est beaucoup dans l'espérance, dans l'espoir. Et à la fois, on est très inquiet. Je vous avoue que je suis aussi inquiète par rapport à l'avenir. Non seulement par rapport à l'Iran, mais par rapport à notre monde dans le contexte actuel. C'est cette force aussi qui vient peut-être d'une culture ancestrale. Et ma force, je l'attire aussi des personnes comme vous, les rencontres que je fais, des femmes engagées. On est aussi la somme des rencontres. Donc c'est ça qui me donne cette pêche. Je suis contente que vous le disiez parce que là, je me sens un peu fatiguée ces derniers temps. Mais pour revenir sur la question socio-économique, quelle est la situation actuelle aujourd'hui en Iran ? Cette société souffre de plusieurs maux. Aujourd'hui et depuis un certain nombre de temps, il y a ce qu'on peut appeler un climat d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité est un sentiment habité par une grande partie de la population, à la fois une société aussi qui a été fragilisée sur des questions socio-économiques. Aujourd'hui, vous savez, les Iraniens sont parfois obligés d'être à cheval entre 2-3 boulots pour essayer de finir le mois. Vous avez une population certes éduquée, qui sort avec des diplômes en ingénierie, en médecine, et qui se retrouve finalement sur un marché de l'emploi qui ne parvient pas à les absorber. Donc vous avez, notamment chez les jeunes, un taux de chômage assez élevé. Souvent on décrit l'économie iranienne, même si je ne suis pas économiste de formation, on qualifie l'économie iranienne de stagflation. C'est-à-dire que vous avez à la fois une augmentation du taux d'inflation et du taux de chômage. L'impact dans la vie quotidienne des Iraniens est énorme. Vous savez, il y a quelque temps, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne peuvent pas se procurer certains denrées alimentaires, comme la viande par exemple. On sait aujourd'hui que c'est très difficile économiquement pour aussi avoir accès à des soins de santé. Il y a certains médicaments qui ne sont pas accessibles en Iran. L'Iran a été un des derniers pays à être vacciné contre la Covid-19. Donc vous voyez, au sein même de la société, ce qu'on peut reprocher ultimement à l'État iranien, au-delà des manquements aux droits humains, au-delà de ces séries de féminicides et d'infanticides qu'on a connus ces derniers temps, c'est de reprocher ultimement à l'État iranien de ne pas remplir son rôle d'État. Le contrat social aujourd'hui en Iran n'est pas respecté. Tout État, aussi autoritaire qu'il soit, doit garantir un minimum de bien-être et de sécurité à sa population, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui dans la société iranienne.
Je me demande si effectivement une des spécificités de l'Iran, ce n'est pas justement les iraniennes. C'est-à-dire que effectivement, quand on pense à Shirin Ebadi, à Nasrin Sotoudeh, qui malheureusement est à nouveau emprisonnée.
Depuis le 29 octobre 2023, exact.
Je crois qu'elle a été emprisonnée lors des obsèques d'Armita Agarov. Quand on pense à Narges Mohammadi, c'est-à-dire qu'on se dit que les figures de proue en Iran, c'est des femmes.
Oui, absolument. Elles se démarquent par leur force, par leur détermination, par leur éducation, leur courage, parce qu'il faut aussi beaucoup d'audace et de courage. Et l'ensemble de ces femmes que vous venez de citer, Shirin Ebadi a gagné le prix Nobel de la paix en 2003, il y a 20 ans déjà. Narges Mohammadi a eu le prix Nobel de la paix en 2023, le 6 octobre dernier. Nasrin Sotoudeh a eu le prix Sakharov 2012. Et d'ailleurs, cette année, 2023, le prix Sakharov a été à nouveau donné non seulement à Mahsa Amini, mais à l'ensemble du mouvement Femmes, Vie et Liberté.
En l'occurrence, les femmes sont l'avenir de l'homme.
En tout cas, je pense qu'on ne peut plus dissocier aujourd'hui la cause des femmes en Iran de la cause du peuple. Les revendications portées aujourd'hui par les femmes iraniennes se croisent en fait avec les revendications portées par la société dans son ensemble. Évidemment, les revendications très propres sur les questions d'égalité hommes-femmes, cette lutte contre les lois discriminatoires à l'égard des femmes et cette juridiction, d'ailleurs, vous avez très bien prononcé le mot, une juridiction assez misogyne à l'égard de ces femmes-là, mais elles portent aussi une vision du monde. Elles portent une vision démocratique, elles portent en elles et avec elles des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi des pays comme la France, la Belgique ou le Canada soutiennent ce genre de mouvement. Parce qu'en termes de valeurs, finalement, on est dans du commun. On a un socle commun qui est la pluralité politique, qui est ce processus démocratique. Souvent, on dit en sociologie que les moteurs du changement dans une société sont les jeunes et les femmes. Et c'est vrai que même historiquement, si on regarde et qu'on dépasse le cas iranien, c'est vrai que les femmes et les jeunes ont joué un rôle souvent déterminant dans cet élan révolutionnaire.
Dans beaucoup de luttes.
Absolument. Elles sont souvent devant, devant
après,
la scène.
Après, on les range dans les maisons.
Absolument. Mais les femmes qui réfléchissent et les femmes qui pensent, forcément, elles dérangent.
Oui, absolument. Vous qui vivez avec deux pieds sur trois, sur trois territoires, est-ce que vous voyez des différences ou des choses à dire sur l'approche faite selon les pays dans la prise en compte des droits humains et dans le soutien de ce ou pas de ce mouvement Femmes, Vie et Liberté?
Oui, c'est une question intéressante, mais que je vais découper en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la position des États, de ces États-nations par rapport à l'Iran, puis il y a aussi la réaction de la société. Et comme j'ai la chance, en fait, de pouvoir donner des conférences dans des écoles, dans des universités, dans le milieu associatif et dans le milieu culturel et artistique, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais je reviendrai, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les relations art et politique. Disons que dans ces espaces, où j'ai eu la chance d'évoluer. J'ai souvent senti, en tout cas ces 10 dernières années, j'ai vécu sur la belle île de Montréal, au Québec, au Canada, j'ai souvent senti un intérêt, une curiosité chez les Québécois, de tous les âges d'ailleurs, que ce soit les jeunes, les moins jeunes. J'ai aussi la chance de donner des cours dans ce qu'on appelle les universités du troisième âge, des personnes qui sont à la retraite et qui sont toujours très dynamiques. D'ailleurs, on les appelle les retraités actives. J'ai la chance donc d'avoir un public intergénérationnel, et ce qui m'a souvent touchée, et peut-être aussi ma force, je la tire de là, c'est que je trouve que souvent, ces personnes-là sont très très curieux par rapport à l'Iran. Ils posent beaucoup de questions. Je suis énormément sollicitée par différents espaces, aussi par les médias québécois, versus... Parfois, j'ai aussi cette observation dans la société française. De mon expérience personnelle et très subjective, j'ai toujours eu cette observation que les Français comprennent l'Iran. Les femmes françaises comprennent les femmes iraniennes. La société française comprend l'Iran. Je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est parce que c'est deux sociétés avec une histoire très ancrée? Peut-être parce que vous aussi, vous êtes passé par des choses difficiles. Vous avez aussi fait une révolution. Alors, je trouve encore une fois qu'il y a du commun entre ces peuples, où en fait j'ai trouvé moins d'intérêt. Et bon, ça fait pas trop longtemps que je suis de retour en Belgique, je suis quand même de retour après 10 ans. Je trouve qu'il n'y a pas tant d'intérêt, ni dans les médias, ni au niveau des politiques. J'ai même parfois l'impression que la question iranienne peut déranger. On a parfois, vous savez, il y a des sujets comme ça dans nos sociétés qui sont tabous encore. On ne veut pas trop en parler, ou en tout cas, on ne veut pas donner trop de visibilité. J'imagine que ça s'inscrit aussi dans un contexte où il y a un agenda politique. Ceci étant dit, oui, je vois quand même des différences sur les différents continents et dans les différents pays. Oui, les approches sont différentes.
Okay. La question que je ne vous ai pas posée et que je veux poser à chaque interview, c'est: vous définissez-vous comme une féministe?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que voilà, la cause féministe et toutes les revendications portées par le mouvement féministe, pour moi, c'est naturel. Je veux dire, quelque part, ça fait partie de notre évolution en tant que société. Ça fait même partie de notre évolution en tant qu'être humain. Après, je ne me définis pas toujours et forcément comme féministe, parce que j'ai l'impression que cette cause doit être la cause de tous. Féministe ou pas, pour moi, c'est des valeurs de base, en fait. C'est des fondamentaux.
Nous passons à présent à votre vie plus personnelle, plus privée.
J'ai la chance, enfin ça c'est vraiment, moi je pense qu'on fait partie encore des personnes très privilégiées dans ce monde, de pouvoir voyager, de pouvoir avoir cette liberté de mouvement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de vraiment évoluer entre 3 langues, entre 3 cultures, sur 3 continents. Finalement, le chiffre 3 peut-être c'est mon chiffre porte-bonheur. Et c'est intéressant parce que on développe une forme de relativisme. Ça nous permet de grandir. Moi, c'est surtout mes voyages qui m'ont permis d'évoluer, de me construire aussi en tant que femme et en tant qu'individu. Donc oui, voilà, je suis un petit peu... Et puis alors, ma vie personnelle, je suis née à Téhéran, donc dans la capitale iranienne. J'ai fait une partie de ma scolarité à Téhéran avec le voile. Une des images que j'ai en tête, c'est que je suis née donc sous la République islamique d'Iran, donc dans un régime de propagande idéologique. Donc je me rappellerai toujours cette scène où on brûlait le drapeau américain. Et on nous obligeait, en fait, on nous forçait, en fait, à crier mort aux Américains, mort à l'Amérique. Et donc, j'ai gardé cette image assez forte de propagande. Avec le recul, évidemment, on analyse, mais c'est vrai que c'était des moments quand même qui ont marqué un peu mon enfance, cette obligation de porter le voile, même à l'école, quand il faisait très chaud. C'est des choses, évidemment...
Toute petite,
à l'âge de 7-8 ans, quand vous êtes scolarisé. Mes parents ne voulaient pas que je porte le voile dans l'espace public. Normalement, vous êtes censé le porter dès la puberté. Ceci étant dit, voilà, mes parents sont laïcs, donc c'était très difficile, en fait, de vivre dans cet espace finalement très contradictoire. Une vie familiale libre, ouverte, laïque, versus une société fermée, idéologique, très religieuse, et avec des poids, des pesanteurs culturelles et traditionnelles. Donc finalement, on avait cette vie divisée dans des espaces complètement à l'opposé. Et puis la Belgique, souvent je dis c'est mon pays de cœur, parce que la Belgique m'a permis non seulement de devenir francophone, mais surtout francophile. Et j'ai appris cette belle langue française en Belgique, avec la télévision. ça peut paraître, parce que souvent on me dit on sait pas trop où tu situais ton accent, mais c'est vrai que moi j'ai pas appris au départ le français avec l'école, mais avec la télévision qui a joué un rôle quand même important dans l'apprentissage de cette langue. Donc j'ai évolué en Belgique pour une autre partie de ma scolarité, jusqu'à mon baccalauréat à l'Université libre de Bruxelles, qui d'ailleurs cette université est intéressante parce que vous voyez comment ça vient jouer aussi sur notre construction personnelle, c'est le libre arbitre. Alors, quelle contradiction avec ce que moi j'ai vécu en Iran d'être dans une université où on développe l'esprit critique.
Vous êtes allée vous installer en Belgique avec vos parents, j'imagine.
Absolument. Mes parents ne voulaient pas forcément partir. Vous savez, partir, c'est toujours un déchirement.
Absolument.
Ceci étant dit, ils ont beaucoup réfléchi à cette question de départ, de quitter finalement une vie confortable, une famille. Une vie en fait, et finalement j'ai l'impression que mes parents quelque part ont sacrifié leur vie pour nous, parce que c'est vrai que ils souffraient de la situation politique, mais ils avaient une vie sociale et une vie j'ai envie de dire professionnelle assez épanouie. Mais ils ont décidé de partir pour surtout, et la raison principale c'était pour surtout donner une éducation à mon frère et moi, une éducation hors d'un état idéologique, sans la présence de la religion. Je pense que pour eux c'était important qu'on puisse évoluer dans un milieu laïque, et mes parents m'ont toujours dit, si après toi tu as envie de choisir une croyance, libre à toi de choisir vers quelle croyance tu veux aller. Et ça, j'ai trouvé que cet espace de liberté offert par mes parents était très intéressant, et ils ont choisi donc de partir. Ils ont vécu la guerre quand même. Ils ont vécu d'ailleurs, mes parents, ma maman me dit toujours, tu sais, on est une génération où on a à la fois connu une révolution, une guerre, puis la crise sanitaire. Et c'est intéressant qu'elle se situe sur ces trois dimensions.
Oui, oui,
c'est vrai que c'est une génération qui a vu beaucoup de choses, et ils ont quand même vécu la guerre Iran-Irak. Et c'est après la guerre, dans les années 90, qu'ils ont décidé de partir, parce que justement, ils voyaient les évolutions dans le sens négatif du terme dans la société iranienne, et ils étaient très inquiets pour notre avenir. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils ont décidé d'immigrer en Belgique.
Quelque part, d'un malheur sort un bonheur.
Et absolument.
Je crois que c'est une force, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des rêves que vous poursuivez, de vos passions, de vos activités extra-activistes, extra-professionnelles?
Oui. Alors moi, j'ai eu souvent tendance à dire que je sépare pas trop ma vie ou mes intérêts personnels avec ma vie professionnelle. Là aussi, j'ai la chance finalement de travailler sur des sujets qui me passionnent. Donc si vous voulez, ma passion pour la question politique et ma passion pour la question artistique et la place des arts dans une société convergent tout à fait. Donc je fais plus aujourd'hui la distinction en disant ça c'est ma vie privée, ça c'est ma vie professionnelle, ça c'est mon engagement. J'ai tenté en tout cas de tout faire pour essayer de relier mes deux intérêts. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la notion de la censure. La censure en art, c'est quelque chose qui vient véritablement me chercher. Peut-être aussi, étant donné mon vécu et ma trajectoire. Donc, je suis vraiment fascinée. Je suis passionnée par l'œuvre d'art. Je suis passionnée par la place qu'un artiste occupe dans une société. J'aime bien penser qu'à une réponse ou à des mots politiques, on peut apporter une réponse culturelle. C'est peut-être un peu cliché de le dire, mais je trouve que l'art, pour moi, doit jouer un rôle essentiel. Encore plus aujourd'hui, enfin, dans les moments qui sont difficiles. Vous savez, au Canada, à l'époque, la directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal avait fait quelque chose d'assez extraordinaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une ordonnance de la part d'un médecin pour aller voir une exposition. Et je trouve ça formidable, parce que c'est vrai qu'une des manières finalement de me sentir bien, c'est d'aller me promener en fait dans un espace muséal. Et c'est vrai que ça a un impact énorme. Je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller se promener dans un espace, et surtout...
C'est une médecine préventive.
C'est une médecine préventive, et même si vous n'êtes pas bien, je pense que les couleurs, les œuvres d'art, les artistes, surtout dans une ville aujourd'hui comme Paris, mais même à Bruxelles, on a la chance en Europe de vivre en fait dans des musées parfois à ciel ouvert. Et ça me fait souvent penser à cette phrase d'André Gide qui disait « L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté ». Et je trouve que ça prend véritablement sens dans ce que moi je fais actuellement à travers ma passion, mon engagement et ma vie professionnelle.
Bah, l'art, c'est l'humain, quoi. C'est la patte humaine.
Absolument. Gilles Deleuze disait « Créer, c'est résister ».
C'est tellement vrai. Merci pour toutes ces explications, cette analyse fort intéressante que vous faites. Nous passons au questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère ?
Mais justement, vous l'avez bien vu, je pense, Jocelyne, c'est l'optimisme.
Votre principal défaut ?
Je souffre de mon hypersensibilité.
Quelle est votre principale qualité ?
Il y a deux points, c'est aussi une question de valeur, c'est la loyauté et la gratitude.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme ?
La même chose, la loyauté, la gratitude.
Et qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?
La pérennité.
C'est quoi le bonheur pour vous ?
Alors, il y a beaucoup de choses, mais il y a une image, peut-être que c'est lié aussi à mon enfance en Iran. J'ai une enfance très agréable et chaleureuse, mais l'image qui m'a le plus marquée, c'est cette longue table chez ma grand-mère, entourée de toute la famille et des amis. Je trouve que c'est une scène de vie incroyable. Pour moi, c'est peut-être... Il y a des mille façons de décrire le bonheur, mais en termes d'image, c'est ça qui me procure un bien-être et le bonheur.
Quel serait votre plus grand malheur ?
La perte de mes proches et de mes parents.
Qu'est-ce que vous rêveriez d'être ?
Imperméable.
Le pays où vous désireriez vivre ?
L'Italie.
Quelle est la couleur que vous préférez ?
Alors, moi, j'aime beaucoup l'orange. Alors, il y a une variation de l'orange, c'est l'orange brûlé, mais j'aime aussi beaucoup l'orange abricot, l'orange aurore, tangerine et l'orange safran.
Waouh !
Mais c'est vraiment dans l'orange brûlé que je me retrouve.
D'accord. Quelle est votre fleur préférée ?
Le jasmin, qui me fait penser à mes souvenirs d'enfance.
Votre animal totem ?
Panthère noire.
Quels sont vos auteurs et autrices artistes préférés ?
Mais puisqu'on est à Paris sans paix. Je traverse Paris en voyant les œuvres vivantes de Sempé. Dans la poésie, il y a une poétesse que j'aime beaucoup, une poétesse iranienne, Foulour Farrokhzad, qui est considérée comme l'héroïne ultime de la poésie iranienne contemporaine. C'est aussi une poésie de la protestation, par la révélation du tabou. Je trouve que cette femme est pour moi aussi une autre figure de résistance. Côté musique, j'aime beaucoup le travail du compositeur Hans Zimmer. J'aime beaucoup la musique classique, mais j'aime beaucoup surtout la musique instrumentale.
Alors, vos héros et héroïnes dans la vie réelle ?
Pour moi, c'est Nasrin Sotoudeh, incontestablement. Je vis avec elle depuis des années. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais si un jour elle nous écoute, pour moi, mon rêve, ce serait qu'elle devienne la présidente de l'Iran un jour.
Ah, ce serait formidable. Je pense que c'est un modèle pour beaucoup d'entre nous.
C'est une source d'inspiration.
J'espère qu'elle nous entend du fond de sa prison. Votre cuisine et votre plat favori ?
Alors, j'aime beaucoup, je suis très gourmande. Hein. Du chocolat belge au sirop d'érable au Canada, en passant par le pain au chocolat. Disons que dans les plats, après, c'est cette variation entre la cuisine iranienne et vietnamienne.
Vous cuisinez vous-même ?
Je cuisine, oui. J'aime beaucoup le safran et je cuisine beaucoup le riz au safran avec un gratin de riz aux pommes de terre avec du riz. C'est quelque chose qu'on connaît moins, mais nous, on utilise vraiment, on fait un mix en fait du gratin de pommes de terre avec le riz.
Quel est votre mot favori ?
Liberté, je pense que ça peut être vraiment ce mot-là, parce que ça nous habite, parce qu'on y pense tout le temps.
Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ?
Je pense que l'ego, c'est quelque chose qui fait beaucoup mal dans nos sociétés.
Quelle est la personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé ?
Gandhi.
Y a-t-il une réforme politique qui, selon vous, a réellement amélioré la société ?
Peut-être le droit des votes pour les femmes.
Comment est-ce que vous aimeriez mourir ?
Dans le sommeil.
Dernière question. Avez-vous une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ?
Vivre et laisser vivre.
Ah, toute votre humanité transpire au travers de votre discours politique et intellectuel.
Merci infiniment.
Merci beaucoup Agnès Yahé. À bientôt, j'espère.
À très bientôt.
Vous venez d'entendre le podcast Femmes Engagées, produit par Femmes du Monde et Réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes Engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes Engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Chollet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes.
Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien. Rien. Rien du tout.
C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.